Yo te voy a echar para luego. Les amis, bonjour. La première fois que j'ai vu mon nom sur le planning, c'était loin, hein, c'était il y a 4 mois. Mais vous ne pouvez pas savoir combien le temps passe vite des fois. Maintenant, on est le 18 juillet, et comme l'a dit Élie, eh bien, effectivement, c'est la première fois que je suis devant vous aujourd'hui pour vous apporter un message de la part de notre Dieu. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé quelquefois dans votre vie, mais des fois, on voit un petit trou de souris, on a envie de s'y rentrer dedans et puis de se planquer, de ne pas ressortir. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu mon cas. Hein. J'aimerais bien me planquer dans un petit trou de souris, disparaître, me faire oublier pendant un petit moment. Mais voilà, le Seigneur m'a appelé à son service et il me demande maintenant de partager quelque chose avec vous. Alors, comme l'a dit Élie, effectivement, beaucoup de personnes ont prié pour moi pour ce moment. Et je vous remercie tous, ceux qui ont prié, ceux qui m'ont envoyé des messages, des SMS, mails. Et je reviendrai, oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est la première fois que je suis devant vous aujourd'hui, et c'est un petit peu compliqué, mais beaucoup de personnes m'ont encouragé, donc, et parmi les personnes qui m'ont encouragé, je citerai simplement le mail d'un frère qui n'est pas là ce matin, mais qui m'a dit « c'est une grande responsabilité et un privilège ». Alors je dois vous avouer que cette définition du mot « privilège » n'était pas celle que je m'étais faite quand j'apprenais la définition des mots. Mais bon, ça m'a quand même encouragé, parce qu'effectivement, c'est un privilège. Privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu encore aujourd'hui, 2000 ans après la venue de notre Seigneur, continuer à pouvoir dire ce qu'il a fait de nous, comme on a pu le rappeler encore ce matin par la bouche de Élie. Il est venu pour nous donner la vie. Et cette vie, eh bien, encore aujourd'hui, on va pouvoir en parler. Donc c'est vraiment un privilège pour cela. Mais il m'a dit, c'est aussi une responsabilité. Et figurez-vous que mes cheveux blancs parlent pour moi. Je ne suis pas tout jeune, j'ai mis longtemps avant de prendre cette responsabilité, venir devant vous pour apporter la parole. Parce que ceux qui connaissent bien la parole connaissent ce passage de Jacques chapitre 3, où Jacques nous dit ceci, « Mes frères, ne soyons pas nombreux à vouloir enseigner, car vous le savez, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. » J'ai connu mieux comme encouragement. Quand on lit des passages comme ça, on a plutôt envie de vite se retourner et vite retourner s'asseoir ou fermer notre Bible. Et ce passage, je l'ai retourné dans tous les sens en me disant, mais c'est pas ma place aussi ici aujourd'hui parce que bon, si je suis là devant vous, hein, je suis loin d'être quelqu'un de parfait. Ma femme n'est pas là aujourd'hui pour vous le dire, mais elle vous le dirait très bien si elle était là. Et voilà. À force de le tourner, je me suis dit, et si c'était Satan qui mettait ce verset en permanence devant mes yeux, pour me dire « Étienne, c'est pas ta place ici. T'as rien à faire devant ces personnes, leur faire croire que ce que tu vas leur dire, voilà, ce que je vais vous dire, j'espère que vous pourrez le prendre comme un encouragement, une exhortation, un avertissement peut-être. » Et voilà, je me suis dit « C'est peut-être Satan qui place en permanence ce passage devant mes yeux et qui m'empêche ainsi de vouloir aller de l'avant. » Et puis vous avez d'autres passages aussi qui nous rappelle que, par exemple, celui-là, ce verset qui nous dit que si quelqu'un a une occasion de chute pour l'un de ses petits, il vaudrait mieux qu'on lui pende une meule de moulin autour du cou et qu'on le jette à la mer. Alors voilà certains passages, et puis il y en a d'autres qui nous exhortent et qui nous avertissent dans la parole qu'on ne doit pas dire et faire n'importe quoi. Alors, par contre, l'Éternel a pu dire aussi à Gédéon, « Va avec la force que tu as. » Alors c'est bien avec cette force que ce matin je veux m'approcher de vous, demander au Seigneur cette force pour pouvoir m'accompagner et dire ce que j'ai à vous dire. Mais je vous inviterai quand même à pouvoir faire comme ces Juifs, vous savez, à l'époque dans cette région de Béret, qui chaque jour sondaient les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Alors peut-être qu'il y a des choses que je ne vais pas arriver à vous dire comme je devrais vous les dire. En tous les cas, beaucoup sont en vacances, d'autres sont en retraite, mais vous avez tous beaucoup de temps devant vous pour sonder ces Écritures et voir si ce que je vais dire aujourd'hui, eh bien, est la vérité. Et j'espère ne vous dire que la vérité pour ce moment-là. Alors on va peut-être commencer par quelques lectures. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous apporter, c'était un partage à partir de la vie de Moïse, un épisode simplement, parce que Moïse a vécu très longtemps, et c'est qu'un épisode de sa vie que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, ces quelques passages. Alors je ne sais pas à quoi vous pensez lorsqu'on évoque Moïse. Certains vont penser à ce puissant prince d'Égypte qui a été formé pendant 40 ans à la cour de Pharaon. D'autres vont penser peut-être à un prophète, un puissant prophète aussi. D'autres vont penser à un chef de guerre, un puissant général qui a été capable de faire sortir des millions de juifs du joug de l'esclavage, à qui il a été demandé de faire sortir le peuple d'Israël de ce moment d'esclavage. Mais on pense aussi peut-être à ce héros dont il est question dans le chapitre 13 des Hébreux, tout ce chapitre qui nous parle des héros de la foi. Et avec ce personnage, je me suis trouvé bien des points communs. Et on va commencer par une lecture donc de l'épître des Hébreux. Mais cherchez pas un point commun avec moi, entre Moïse et moi, dans ce chapitre des Hébreux, hein, parce que là, Moïse a été compté comme un héros de la foi. Moi, pour le coup, je serais plutôt un zéro de la foi par rapport à lui. Mais on va quand même lire un premier passage dans Hébreux. Alors, je dirais dans la version Semeur, si Jacques veut afficher la version Semeur. Hébreux, chapitre 11, verset 23. On va commencer au verset 23 jusqu'au verset 28. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme. En homme qui voit le Dieu invisible, par la foi, il a célébré la Pâque et fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre asséchée, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Alors pourquoi cette lecture pour commencer ce partage? Bien parce que j'aimerais que ces passages sur Moïse, ce qu'on puisse retenir à la fin de ce temps. Cet homme qui a été un homme de foi. Tout le chapitre, en tous les cas, une grosse partie de ce chapitre, nous parle de beaucoup d'autres personnes de la foi. Si on lit tout au long de ce chapitre, alors j'ai relevé uniquement les prénoms, les noms des personnes qui ont été mentionnées, sans dire pourquoi cette foi ils ont été trouvés comme étant des hommes ou des femmes de très grande foi. Mais on peut voir qu'il y a eu Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Rahab, ça fait énormément de monde tout ça. Et le verset 32 de ce chapitre continue en nous disant « Et le temps manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Voilà toutes ces personnes qui nous sont mentionnées dans la parole, dans ce chapitre en particulier. Et on voit que par des personnes plutôt tout à fait ordinaires, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Parce que, comme on va pouvoir le voir dans les passages qui suivent, Moïse, on ne peut pas dire qu'il a toujours été ce grand homme de foi dont il est fait mention dans le chapitre 13 des Hébreux. Et si tous ces hommes et ces femmes de foi ont pu être cités, eh bien je suis sûr que vous ou moi aussi, on est capable de faire ces mêmes grandes choses par la puissance que notre Dieu veut placer en nous encore ce matin. Il nous rend capable de faire ce qu'il a prévu pour nous, pour un peu encore qu'on veuille le laisser agir, parce que c'est pas tout le temps qu'on a envie de le laisser agir. Je sais pas si on m'entend bien. Voilà. Alors, ce passage que j'ai lu, comme je vous ai dit, c'est pas là que vous arriverez à trouver des points communs entre moi et Moïse. Par contre, on va pouvoir prendre maintenant un passage dans le livre de l'Exode. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Exode et les passages que je vais vous lire seront tirés en grande partie des chapitres 3 et des versets 4. Mais pour comprendre un petit peu mieux le thème que je pense développer avec vous ce matin, je commencerai par le verset 13 du chapitre 4. Je ne sais pas si vous le connaissez ce verset, mais il va peut-être s'afficher et je vous le lis. Non, Seigneur, je t'en prie, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Voilà quelque chose qui ressemble un petit peu plus au Étienne qui est là ce matin devant vous. Combien de fois j'ai voulu prendre mon téléphone et dire à Élie, non, c'est pas pour moi là ce qu'on me demande de faire maintenant, envoie quelqu'un d'autre. Voilà, le thème que je pense développer avec vous ce matin, vous l'aurez compris, ce sera nos excuses. Parce que des excuses, figurez-vous, on va voir que Moïse, dans ce passage, Moïse en a eu plusieurs. Il n'en a pas eu qu'une seule. Quelle patience que celle de notre Dieu encore aujourd'hui. Vous ne trouvez pas le nombre de fois où on refuse de répondre à sa volonté. Mais j'aimerais que cet épisode que je vais vous rappeler maintenant n'enlève en rien en ce qui nous est dit dans le Deutéronome. On va prendre aussi ce passage du Deutéronome 34, le tout dernier chapitre du Deutéronome et quasiment les derniers versets aussi. Deutéronome 34. Au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal. Pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel avait envoyé accomplir en Égypte devant le Pharaon, devant ses ministres et devant tout le peuple. Et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse accomplit aux yeux des Israélites. Voilà ce qu'on peut lire dans le Deutéronome. Alors au moment où se passe notre récit, Moïse est âgé de 80 ans. Dans la Bible, on voit, toujours dans le Deutéronome, si j'avais lu quelques versets auparavant, on voit que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Et nombreuses personnes, et d'ailleurs on le voit aussi dans la Bible, mais nombreuses personnes qui ont parlé sur la vie de Moïse, ont dit que la vie de Moïse a été découpée en trois parties de 40 ans. Je vous laisserai voir dans la Bible ce que signifie, il est souvent parlé du chiffre 40 ans dans la Bible, 40 jours ou 40 années. Mais ce chiffre 40 est souvent employé, je vous laisserai faire les recherches de votre côté. La vie de Moïse, donc, c'est l'évangéliste Moody, j'ai relevé ça, l'évangéliste Moody qui a pu dire que les 40 premières années de la vie de Moïse ont été passées à l'école de Pharaon. En fait, pendant 40 ans, il était à la cour de Pharaon, et là, il a appris, il a été instruit, comme on le lira un petit peu plus tard, dans Acte 7, il a été instruit dans toute la science de l'Égypte. Ensuite, il y a eu les 40 années que Moïse a passées dans le désert de Madian, suite à sa fuite, suite au meurtre qu'il a commis sur un Égyptien et tous les péripéties qu'il a pu vivre. Il a passé 40 ans dans le désert, où là, il s'est rendu compte que l'homme sans Dieu, par contre, n'est rien. Et ensuite, on va voir, et c'est la partie qui nous intéresse, le début des 40 dernières années de la vie de Moïse, où là, Moïse a été dans le désert. Et là, il y a été, par contre, avec l'aide du Seigneur, mais il s'est rendu compte que là, c'est pareil, avec le Seigneur, on peut faire des grandes choses, mais quand on est sans Dieu, là, on est obligé de reconnaître son néant. Alors, on va lire, enfin, je vais simplement vous citer les versets 1 à 10 du chapitre 3 de ce livre de l'Exode. Dans le début du chapitre, on peut voir que Moïse donc est en train de garder le troupeau de son beau-père et tout à coup il voit un buisson qui est en feu, un buisson qui est en train de se consumer, qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas plutôt. Donc je ne sais pas ce que vous auriez fait vous, mais moi j'aurais fait comme Moïse, je me serais approché pour voir. Et en fait il s'avère que à travers ce buisson c'est Dieu qui va lui parler et qu'il va lui donner un ordre de mission. Et cet ordre de mission, c'est celle de délivrer son peuple de l'esclavage. Je crois qu'on l'a, c'est un petit peu ce qu'on a chanté dans le deuxième cantique où il nous est parlé de délivrance. Et bien là, c'est Moïse qui était appelé par Dieu pour délivrer ce peuple. Et en lisant ces paroles où Dieu appelle Moïse, on peut penser aussi à ces paroles de Matthieu où il nous est demandé aussi tout à la fin de ce chapitre de Matthieu, le chapitre 28, où il nous a demandé à nous de faire de même. Faites de toutes les nations des disciples et envoyez-leur faire ce que je vous ai commandé. Et ça, il le demande à chacun de nous. C'est pas une mission qui est donnée à tel ou tel, mais c'est chacun de nous qui avons besoin de cela. Dieu a eu besoin de Moïse à ce moment donné. Moïse, comme on le lit dans la Bible, qui a été qu'un instrument, en fait, de la part de Dieu. Dieu aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Alors, une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand vous faites cuire des pâtes, vous avez besoin d'un instrument, et cet instrument, c'est une casserole. Eh bien, alors excusez-moi, je ne veux pas traiter Moïse de casserole, mais enfin, et nous, on est bien peut-être souvent des casseroles, parce qu'on se rend compte qu'on ne vaut pas grand-chose, mais ce qui compte, c'est le plat, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le résultat. C'est une petite image comme ça qui me vient en passant, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, comme je vous ai dit. Donc, Moïse, on voit que Dieu veut se servir de Moïse, qui lui donne cet ordre de mission. Et seulement, quelle sera cette réponse de Moïse? Et c'est là qu'on commence à avoir la première excuse, et on va se rendre compte que à partir de là, il va y en avoir beaucoup, puisque Moïse ne va pas donner moins de 5 excuses avant d'accepter finalement ce que Dieu veut faire de lui. Moïse est donc en train de garder ses moutons, et il répond, c'est le verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi ?» Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour lui donner ce que tu me demandes de faire maintenant? Alors, qui sommes-nous, nous aussi, pour aller vers des personnes que le Seigneur nous envoie, pour aller vers ces gens qui ont besoin aussi de repentance? Là, Dieu veut donner à Moïse cet ordre. Moïse était en train de garder ses moutons depuis 40 ans, depuis cette fuite dans le pays, dans le désert, après le meurtre de cet Égyptien. Donc, il voyait pas pourquoi 40 ans après, Dieu lui demandait cette chose. Et là, il nous est parlé d'un meurtre. Alors, je sais pas, ça pourrait nous faire penser peut-être à d'autres meurtres qu'on aurait commis. Alors, meurtre, là, je parle entre guillemets, hein, je n'ai pas commis de meurtre, grâce à Dieu. Mais, en tout cas, quand on lit la suite du chapitre 3 que j'ai commencé à vous citer tout à l'heure de ce qu'on peut lire sur l'avertissement qu'on reçoit, pardon, on lit dans ce chapitre 3, il nous est parlé d'un petit membre. Et ce petit membre s'appelle une langue. Et il nous est dit de ce membre que personne ne peut la dompter. Et qu'un petit peu plus loin, elle est pleine d'un venin mortel. Et comme on se sert toujours de cette langue, pas forcément pour bénir, mais aussi pour maudire, comme on le voit dans la suite de ce chapitre 3, et bien souvent, je pense en tous les cas, pour ma part, j'ai pu faire énormément de dégâts avec cette langue, et peut-être décourager des personnes de venir à l'église, des personnes qui ne viendront peut-être plus à l'église par ce que j'ai dit, et qui périront parce qu'elles n'auront pas eu l'occasion de connaître la vérité. On peut tuer aussi de cette façon, alors prenons-y garde. Mais revenons maintenant à notre lecture. Ce simple berger que des Égyptiens méprisaient. Parce que les bergers étaient plutôt méprisés par les Égyptiens. Pour eux, ils étaient de la haute. Alors lui, pouvait-il aller parler à un roi? Pouvait-il aller parler à un puissant? Nous, de notre côté, pouvons-nous aller parler aux gens de notre village, à nos voisins, à nos collègues de travail, même simplement? Moïse avait été pendant 40 ans à la cour. Élevé, donc comme on peut le lire je vais simplement vous le citer, dans Actes 7 et au verset 22. Il nous est dit que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Alors nous aussi, nous avons pour la plupart été élevés, alors il a été sur les bancs de l'école de la République, mais on a été aussi pour la plupart élevés à l'école de Dieu, on a pu grandir sur les bancs de l'Église, on a appris énormément de choses concernant cela depuis notre plus tendre enfance. Alors nous aussi, et malgré cela, nous aussi, peut-être qu'on peut dire, je ne suis pas capable, je ne suis pas préparé, je ne saurais pas comment faire, après tout, je ne suis pas un pasteur, ou d'autres excuses de ce type. Et on voit plus tard dans ce passage, non seulement quelle est la réponse que Dieu peut faire à cette première objection de Moïse. On lit le verset 12. « Je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Voilà ce que peut dire la simple réponse que fait Dieu à Moïse. Il lui donne cette assurance qu'il sera avec lui, mais il lui fait pas simplement cette promesse qu'il va être avec lui, mais il lui donne aussi une assurance. Il lui dit, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. Et il lui dit pas si jamais, si tu réussis. Non, il lui dit quand. Ça veut bien dire que Dieu sait très bien que, à un moment ou à un autre, Moïse réussira. Et alors il a réussi certainement après beaucoup d'années, mais avec l'aide de Dieu, il a pu réussir. Je vous invite maintenant à voir cette deuxième excuse au verset 13. Moïse reprit. Il parle à Dieu, donc, j'irai trouver donc les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Voilà une deuxième excuse de Moïse. Alors, je dirais qu'il tient peut-être pas trop la route non plus, parce que on sait très bien que ce je suis dans la réponse de Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute encore un tas de choses. Mais par cette réponse donnée à Moïse, on imagine que les Israélites déjà reconnaîtraient par cela ce je suis, de quel je suis il s'agissait. Il s'agit du je suis, le je suis Dieu, comparé à tous les autres dieux qui étaient adorés, vénérés à l'époque, et encore à tous ces dieux qu'on peut adorer aussi, qui se présentent sur notre chemin et que beaucoup de personnes voudraient adorer. Mais voilà, en disant « je suis », il se présentait directement comme étant ce Dieu, ce seul Dieu et ce vrai Dieu. Alors je vous invite à passer maintenant à cette troisième excuse. Qu'on trouve au chapitre 4. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent « l'Éternel ne t'est pas apparu ». Voilà encore une troisième excuse que Moïse peut faire ressortir. Et si on avait lu la petite partie que j'ai laissée, là, du verset 15 à la fin du chapitre 3, on peut lire quand même au verset 18, je crois que c'est le verset 18, en tous les cas, il est dit « ils t'écouteront ». C'est l'Éternel qui parle à Moïse en lui disant « ils t'écouteront ». Et Moïse, juste après, quelques versets après, il fait cette remarque à Dieu « et s'ils ne m'écoutent pas ». Il semblerait que là, Moïse refuse obstinément de placer sa confiance dans cette parole de Dieu, cette parole simple où il lui dit « ils t'écouteront ». Il voyait peut-être devant lui des obstacles comme nous en voyons bien souvent nous aussi. N'oublions pas qu'il était donc sur cette montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Alors je ne sais pas à quoi ressemblait cette montagne, hein, je n'ai pas cherché des images pour nous représenter un peu cette image, mais une montagne, quand on parle de montagne, eh bien, on parle bien souvent de hauts sommets, des sommets escarpés, de sommets durs à franchir. Alors Moïse se voyait peut-être aussi déjà devant cette montagne. Et d'ailleurs, Horeb, j'ai cherché la définition du mot Horeb, et Horeb signifierait aride, desséché. Alors aride, desséché, peut-être escarpé aussi, on ne sait pas. C'est moi qui le rajoute, mais voilà. Allez dans les Écritures, sondez les Écritures pour voir tout ce que j'ai dit, et vrai, n'est-ce pas ce que je vous ai dit au départ. Alors vous connaissez certainement cette expression, il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre, ou pire aveugle que celui qui ne veut voir. J'ai l'impression qu'on pourrait l'appliquer à Moïse pour ce cas précis. Il est de plus en plus évident, il devient de plus en plus évident qu'il n'est pas de bonne volonté. Alors Dieu utilise une autre méthode pour manifester sa puissance. On voit dans le chapitre 4 à partir du verset 2, on voit qu'il opère deux miracles. Il y aura trois miracles demandés à Moïse, mais Dieu n'en opère que deux. Le premier miracle, c'est ce bâton qui lui est demandé de jeter, qui va se transformer en serpent et qui ensuite va redevenir un bâton. Et ensuite, cette main lépreuse que Dieu lui demande de mettre sur sa poitrine, et en remettant la main sur la poitrine, de nouveau, la main qui redevient saine. Donc c'est des exemples que Moïse devait demander au peuple lorsqu'il serait devant le peuple. Et Dieu lui dit que si ces deux miracles ne suffisent pas, il faudrait qu'il prenne de l'eau du fleuve, et qu'il le jette sur la terre, cette eau deviendrait en sang. Alors cette eau du fleuve, pour moi, c'est l'eau du Nil. L'eau du Nil, pour les Égyptiens, c'était la source de la vie. Et en transformant cette eau en sang, le sang nous parle de la mort. On a pu le voir encore tout à l'heure dans la première partie de ce culte, n'est-ce pas? Le sang de notre Christ, de Jésus-Christ qui nous a rendu la vie, mais pour avoir la vie, il a d'abord fallu passer par cette mort. Alors, bien souvent, nous avons, nous aussi, peut-être besoin de voir des miracles pour arriver à croire et à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, je ne sais pas si on peut appliquer cette parole qu'on trouve dans Jean au chapitre 4 et au verset 48, ou si Jésus, dans cet épisode, parle à des hommes en leur disant « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croiriez donc pas ?» Alors, je ne sais pas si cette parole peut s'appliquer à ce moment-là, mais en tous les cas, la parole semble ne pas suffire à Moïse encore maintenant, et je dois bien avouer que bien souvent aussi, je manque de confiance dans cette parole pour pouvoir aller de l'avant. Je vous invite maintenant à passer à cette quatrième excuse. Et là, je me permettrai de dire, heureusement que le ridicule ne tue pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on lit cette quatrième excuse dans Exode chapitre 4, là c'est au verset 10. « Ah Seigneur, dit Moïse, j'ai pas la parole facile, ça date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis, et ça s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » J'aurais pu aussi vous sortir cette excuse, mais je crois que ceux qui me connaissent bien ne m'auraient pas cru. En tous les cas, c'est ce que Moïse a tenté de faire devant l'Éternel. Et pourtant, on a lu tout à l'heure, dans Acte 7, vous vous rappelez ce que j'ai lu? Qu'il avait été à la cour des Égyptiens, à la cour de l'Égypte, et que là, il était devenu un homme puissant en parole et en acte. Alors certains ont avancé qu'effectivement, Moïse avait peut-être des problèmes d'allocution, machin et tout. Mais enfin, quand il était en train de tuer l'Égyptien ou réconcilier ses frères, là, il n'avait pas de parole. Ou alors, s'il avait des problèmes d'allocution, en tous les cas, il n'avait pas de problème pour les actes. Hein. Mais je pense que cette excuse qu'il est en train de nous sortir, là, on reconnaît pas ce Moïse impulsif qu'on pouvait rencontrer quelques 40 ans auparavant. Et un autre verset de Jacques que j'ai relevé, Jacques 1, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà encore des paroles qui nous montrent bien qu'on doit atteindre les directives de notre Dieu pour pouvoir faire ce qui nous est demandé de faire. Alors Moïse, certainement, avait peut-être peur de retourner en Égypte parce qu'il se rappelait justement c'est ce qu'il avait fait fuir d'Égypte, cette querelle, ce meurtre de l'Égyptien, cette querelle dont il est témoin avec ses frères de sang cette fois-ci, et ce frère de sang qui lui dit « tu vas pas nous faire quand même comme tu as fait l'Égyptien ». Là, il découvre qu'il est découvert, que Pharaon en veut à sa vie et qu'il est obligé de fuir. Et après, il y a encore une troisième, quand il est dans ce désert à réfléchir, appuyé, assis sur un puits, on le voit qu'il est encore témoin d'une querelle, cette fois-ci avec des bergers qui cherchent querelle aux filles de Jéthro. Mais comme il est écrit aussi dans le livre des Romains, je crois que c'est au chapitre 8 qu'on voit ça, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Voilà, il a été avec Moïse et il veut être encore avec nous aujourd'hui. Alors je pense que Moïse n'a pas autant échoué parce qu'il avait agi avec précipitation que parce qu'il avait agi sans Dieu. Alors nous, ne nous laissons pas intimider non plus, n'ayons pas peur d'aller de l'avant, et pour cela, on peut s'armer de force, de courage, et prendre les armes qui nous est rappelées dans Éphésiens au chapitre 6, où il nous est dit « Soyez forts dans le Seigneur, et par sa force puissante, en nous revêtant donc de toutes les armes que le Seigneur, que notre Dieu met à notre disposition. » Je vous inviterai à lire le chapitre 6 des Éphésiens, du verset 10 jusqu'à quelques autres versets. Mais là, revenons à la réponse que Dieu fait à cette quatrième excuse de Moïse. Exode 4, verset 11. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche ? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Maintenant, donc, vas-y, je serai même moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras faire. » Moïse ne saisit pas, et nous, on l'oublie aussi peut-être bien souvent qu'on traite avec le Dieu créateur, ce Dieu qui a créé l'homme, qui a créé l'oreille, qui a créé la bouche et qui a créé la vue. Et cet homme, ce Dieu qui a tout créé, ne serait-il pas capable de nous en faire, nous en servir, et qu'on puisse ainsi aller de l'avant et témoigner encore aujourd'hui aux hommes. Je vous invite maintenant à voir déjà cette cinquième et dernière excuse, celle dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. » Là, il est clair, on voit que Moïse n'a vraiment pas envie de cette mission. Qu'en est-il de celle que Jésus nous confie, de celle que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on trouve dans Matthieu 28, d'aller faire de tous les hommes des disciples et de leur annoncer ce pourquoi Jésus est venu. Christ a donné sa vie pour chacun de nous. C'est ce qu'on a pu rappeler tout à l'heure par le partage des éléments, par le partage de la scène. Et je dois bien reconnaître moi-même que je ne fais vraiment pas trop d'efforts pour pouvoir aller de l'avant et faire connaître cette grâce à ses voisins, à ceux qui m'entourent. Et à la suite de cette cinquième excuse, on voit que Dieu se met en colère. Je suis persuadé que si Dieu ne s'était pas mis en colère à la suite de cette cinquième excuse, Moïse aurait pu en sortir plein d'autres. Si Dieu avait dit encore fais ça, je suis sûr que Moïse, à chaque fois, il aurait balancé plein d'autres excuses. Parce que nous, on a plein d'autres excuses aussi à sortir. Des excuses que Moïse n'aurait peut-être pas sorties, mais on en a plein qui nous viennent facilement à l'esprit. Et j'en ai lu simplement, dans le livre des Proverbes, on a quelques passages où il est fait question à la paresse. Alors la paresse, eh bien, on sort quelques excuses aussi pour faire face à cette paresse. Donc je vous citerai simplement quelques versets de ces proverbes. Proverbe 6, verset 6, nous dit « Va vers la fourmi paresseux, regarde ses voies et sois sage. » Il nous est demandé de faire comme la fourmi, d'aller lentement mais de pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir ainsi parler à ceux qui nous... On a l'impression qu'elle ne va rien faire la fourmi, et bien à la sortie elle fait quand même pas mal. On n'aime certainement pas reconnaître qu'on est paresseux ou qu'on manque d'énergie. Hein. Ça nous fait jamais bien plaisir d'avoir ce style de reproche fait par tel ou tel. Alors peut-être qu'on a simplement tendance à faire place ou laisser aller. On peut renvoyer à plus tard, repousser des choses qui sont pas très intéressantes ou fatigantes. Proverbe 20, verset 4 nous dit « À cause de l'hiver, le paresseux ne laboure pas ». Ça veut dire quand même pas mal. Ceux qui connaissent un petit peu le milieu agricole savent très bien que, ou ceux qui ont un jardin savent très bien que si on laboure pas, eh ben, on n'aura pas grand chose. Si on va pas nous-mêmes apporter la parole, eh ben, c'est pareil. Il n'y aura pas de résultats, il n'y aura pas de grains qui seront produits. Alors, on peut trouver, comme je l'ai dit, d'autres excuses que celles qu'a pu avancer Moïse. Et on trouve dans Proverbe 26 une autre citation, que le paresseux dit qu'il y a un lion rugissant sur le chemin. Alors, vous n'avez pas envie de sortir avec un lion qui va vous déchiqueter, mais ce lion, c'est bien sûr Satan qui veut nous empêcher de faire ce qu'on devrait faire. On peut avoir des fausses listes de priorités, comme ça m'arrive en tous les cas à moi bien souvent. Et on voit dans Proverbe 28, verset 19, qui nous est dit que l'homme préfère courir après les feignants plutôt que de labourer sa terre. On en revient un peu au même verset que celui que je vous ai dit au départ. On peut dire tout simplement « j'ai pas le temps ». Et effectivement, si on veut pas trouver le temps, on n'aura pas le temps. Mais on passe tellement de temps pour faire des choses qui sont pas forcément utiles ou nécessaires pour faire avancer ce qui nous est dit du royaume. On sait pertinemment qu'on trouvera toujours une excuse pour pouvoir faire autre chose que ce que le Seigneur nous demande. Alors pour terminer ce temps, j'aimerais simplement qu'on puisse saisir ce que notre Dieu Tout-Puissant, celui qui s'est tenu auprès de Moïse, donc pendant tout ce temps, pendant tout ce périple, celui qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », qu'on puisse saisir de cette promesse qui est faite à Josué. Cette promesse, on va le lire. Josué, chapitre 1, et au verset 8. Si je suis encore dans les juges, ça ira pas. Josué 1, verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Voilà ce qu'on peut retenir de cette invitation que Dieu nous fait à nous tourner vers lui, à se tourner vers ce livre, nous replonger en permanence dans la lecture de ce livre. Et j'aimerais vous rappeler le verset qui suit, le verset 9. C'est ce verset aussi qui m'a fortement encouragé jeudi soir à l'issue de notre réunion de prière. Ce verset que Élie nous avait laissé. Et ce verset, le verset 9, nous dit ceci. « Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi, avec tout ce que tu entreprendras. N'ayons pas cette peur qu'a pu avoir Moïse de se demander comment il allait pouvoir faire, savoir comment il allait pouvoir intervenir dans toutes ces situations, mais que vraiment on puisse avoir confiance dans la parole de notre Dieu qui nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et je vous laisserai aussi cette parole que Ésaïe a pu prononcer au début de son livre, où l'Éternel, quand l'Éternel demande « Qui enverrai-je ? Qui va marcher pour nous ?» Vous savez ce qu'a répondu Ésaïe ? « Me voici, envoie-moi. » Voilà, alors j'espère que tous, aujourd'hui encore, on va pouvoir faire cette réponse à notre Dieu. Arrêter de sortir des excuses à deux balles, excusez-moi le mot, mais qu'on puisse vraiment aller de l'avant, parce qu'il y a encore plein de monde dans les rues qui sont perdus et qui recherchent le... Il y en a certains qui recherchent, tout le monde ne recherche pas, mais il y en a certains qui recherchent, et qu'on soit là sur leur passage pour pouvoir leur dire exactement ce qui en est. Et j'ai pensé à cet autre verset qui nous dit « Lorsque le Fils viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Et là, on en revient à ces passages que je voulais vous faire garder à l'esprit, tous ces passages de l'Épître aux Hébreux, où il nous est parlé de ces hommes et de ces femmes de foi qui ont eu la foi, et qu'on puisse vraiment être trouvés vaillants en l'attendant, vaillants et veillants en l'attendant, et qu'on ne soit pas trouvés endormis comme ont pu être les apôtres qui s'étaient endormis, ne pouvant veiller une heure quand le Seigneur allait passer de ce monde au Père, quand il allait donner sa vie pour nous. Voilà, j'espère que ces paroles vous auront encouragé un petit peu pour aller de l'avant. Et maintenant, on va prendre ce chant qu'avait prévu Élie au moment de sa présidence. Il nous a envoyé les chants. Et ce dernier chant, c'est justement celui-ci. « Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. » Qu'on puisse vraiment chanter ce chant et toutes les paroles qui s'y rattachent.